du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Et bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur l'ensemble des fréquences de présence. Il est 12h passées d'une minute et 30 secondes. Nous sommes en direct des studios de Lourdes. J'ai le plaisir de partager cette heure que nous allons passer ensemble avec au programme dans quelques instants la chronique verte de Benoît Guillard qui nous amènera dans les Baronnies, ce joli coin du Piémont pyrénéen à côté de Bagnères et entre Bagnères et Lannemezan. Nous irons à la rencontre de Gaby Lagurgue. Nous aurons le coup de cœur en librairie de Nicolas Dargegène cette semaine. S'il s'agit d'une rediffusion, vous le savez, c'est le début de l'été, donc un programme un petit peu plus allégé pour les équipes de Radio Présence. Aujourd'hui, un livre de Christine Boutin. La chronique solidaire de Anne Deslois, eh bien, nous proposera de découvrir ou redécouvrir le tiers-lieu Amasat. Et enfin, Guy de Maupassant, là il ne s'agit pas d'une rediffusion, mais Catherine Albrecht nous propose de découvrir une œuvre littéraire écrite par Guy de Maupassant, donc, qui a passé un séjour dans nos belles Pyrénées, ce sera aux alentours de 12h53. Voilà le programme de l'heure que nous allons passer ensemble. Débutons-le immédiatement avec le titre des informations de ce vendredi 3 juillet.
Bonjour à tous, un militaire de 23 ans du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes est décédé lors d'un entraînement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. À Toulouse, plusieurs personnes ont été mises en examen après l'agression de l'ancien président des Indians Toulousa, le principal club de supporters du TFC. La centrale nucléaire de Golfech conserve un niveau de sûreté jugé satisfaisant, même si l'autorité de sûreté nucléaire demande plusieurs améliorations. L'entreprise toulousaine de l'air s'associe à l'équipementier allemand Schaeffler afin d'accélérer la production de ses drones. En Ariège, la justice confirme le maintien des tirs d'effarouchement des ours pour protéger les troupeaux. Enfin, Djibril Sidi Bé quitte le Toulouse Football Club après deux saisons sous les couleurs des violets. Voilà pour les titres.
Et merci à Clémence Roux de nous avoir proposé ces informations. Nous la retrouvons à 12h30 pour le journal complet de la région et de cette journée. Voici la chronique verte de Benoît Guillard.
Présence à Catus, 92.5.
La chronique verte.
Voici aujourd'hui dans cette nouvelle chronique verte, avec moi-même et Benoît Guillard, et puis donc aujourd'hui le père Gaby Lagurgue. Alors, on va bien préciser où on se trouve. On se trouve en fait au cœur des Baronnies, à Bourg-Bigorre précisément, au presbytère, à la maison du presbytère de Bourg-de-Bigorre. Et donc Bourg-de-Bigorre se situe à une trentaine de minutes de Lannemezan et une vingtaine de minutes de Bagnères, en plein cœur des Baronnies. Et le père Lagurgue, c'est un père très investi depuis très longtemps dans le rural. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'échanger un petit peu sur sa vision sur la pastorale en rural et sur tout ce qu'il a pu vivre et mettre en œuvre autour de ce qu'a porté notre pape dans son message, dans son dialogue avec tous autour de Laudato Si, donc, et en particulier la conversion écologique. Bonjour cher Gabi, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Deux mots de présentation sur qui tu es et puis tes investissements au travers des mouvements différents et ton regard sur le rural et la pastorale rurale.
Bonjour Benoît et bonjour à ceux qui écouteront aujourd'hui. Je suis Gabi Lagurgue, originaire d'un petit village entre Salis de Béarn et Saint-Palais, donc au bout du Béarn et Pays Basque. Arrivé ici dans les baronnies dans les années 70, ordonné prêtre en 72 dans la prairie qui jouxte ce jardin, donc dans une cathédrale de verdure, faut dire comme cela. Et puis venu aussi dans les baronnies avec un engagement, enfin d'abord une insertion dans ces baronnies, enfin auprès d'autres prêtres qui étaient des prêtres du Prado, qui donnaient un signe déjà, enfin je crois important, de vivre ensemble dans les baronnies, dans ce presbytère. Vous verrez peut-être quelques photos quelquefois, et avec l'objectif de prendre une place, mais de prendre une place comme tout citoyen d'abord, et aussi comme prêtre. Donc ces baronnies qui étaient voué, disait-on, à une certaine mort, parce que il y avait peu de reprises, surtout dans l'agriculture. Les baronnies dans les années 70 étaient à dominante rurale, mais surtout agricole, et peu à peu étaient en train de muter avec des gens qui allaient travailler sur Bagnères ou sur Tarbes ou sur Lannemezan. Mais continuant quand même toujours à garder leurs petites exploitations parce que c'était leur histoire, c'était le patrimoine qu'ils ne voulaient pas dissiper. Et moi je suis venu dans ce pays et c'est vrai que j'avoue que ce pays m'a redonné vie parce que j'avais vécu une certaine mort à travers les études, essentiellement toujours dans des villes, alors que j'étais d'un petit village. Et là, c'est vrai que la langue du pays, qui n'était pas tout à fait la mienne, le bigourdan n'est pas tout à fait le bernais, mais la langue du pays, et puis aussi ces prêtres investis auprès des gens, tout simplement vivant avec eux, auprès d'eux, et pour eux, et aussi pour eux-mêmes. Et ensuite, ces prêtres étant aussi liés à des mouvements, l'ACE, le MRJC, le CMR, des mouvements ruraux, et des prêtres étant liés au Prado, à l'association des prêtres du Prado. Et je crois que c'est pour moi, ça a été un petit peu ces trois piliers qui m'ont aidé à m'épanouir, à m'éveiller, et puis aussi à commencer à réaliser une vie autre.
Alors Gabi, je sais que tu as contribué fortement effectivement au développement des mouvements d'action catholique. Aujourd'hui, tu es très près effectivement, comme tu l'as dit, du CMR, MRJC. Tu as contribué activement aussi avec Mission Rurale à l'organisation Terre d'Espérance, acteur très dynamique sur justement cette préparation. Et on a vu que les baronnies avaient énormément de témoignages autour de Terre d'Espérance. Pourquoi un petit territoire comme celui-ci est si riche en acteurs et en témoins et en fraternité autour de difficultés et les fragilités de ce territoire ?
Je crois que ce qui fait la force un petit peu aujourd'hui des baronnies qui étaient, qu'on disait, un petit peu vouées à la mort dans ces années 70, 75, ont repris une certaine vie parce que les gens, en côtoyant les gens, en découvrant un petit peu leurs racines, mais aussi leur manière de vivre et aussi un idéal de vie, vivre simplement mais avec des produits de qualité dans ce qu'ils faisaient, faisait en sorte que ce pays voulait vivre. Un slogan qui est resté fort dans les années 86, quand Noël le gars est arrivé, il y avait une rencontre des 26 villages, puisque les baronnies c'est 26 villages, avec le document qui s'appelle l'arc-en-ciel, qui est là depuis 65, on en parlera sans doute un petit peu plus après, le journal qui rejoint toutes les familles toutes les maisons des baronnies plus 800 à l'extérieur, ces baronnies, le slogan c'était « les baronnies veulent vivre ». Et ça c'est important. Et nous, on s'est situé toujours, c'est pour ça que je ne suis pas trop à l'aise quand on dit Gabi, enfin, au Noël, enfin, mais c'est un collectif. Quelquefois ça a été, il y a cette dimension collective qui a permis qu'on puisse réaliser. Bien sûr, comme dans toute équipe, dans tout groupe, il y a parfois des meneurs, il y a aussi des suiveurs, mais il y a aussi des accompagnateurs. Des fois on est en locomotive, des fois on est tout simplement en wagon, et des fois on se fait traîner aussi un petit peu, c'est comme ça pour tout le monde, mais moi j'ai toujours refusé de dire Gabi il a fait ça, non, il n'a rien fait tout seul, et les initiatives qui ont été prises et qui continuent à être prises aujourd'hui, elles sont toujours une œuvre collective, et ça je pense que c'est important à retenir pour aujourd'hui et pour demain. Le rural s'en sortira s'il est unis, enfin, avec, dans ses différences, mais en même temps aussi avec de certaines visions de la vie, de la société et aussi de la culture dans ce pays.
Alors justement, Gabi, puisque tu l'évoquais, le souci, c'est aussi d'entrer en dialogue avec tous. Et donc, avec Noël, vous avez depuis longtemps maintenant mis en place ce journal. Tu peux nous en dire un peu plus et voir un petit peu ce que ça représente aujourd'hui pour ce territoire ?
À l'origine, le journal, il vient de la première équipe de prêtres qui est arrivée ici dans les baronnies dans les années 65. Avec Jean-Jacques Barrère, qui est toujours là, Jean-Jacques Barrère, il y avait aussi Henri Fréchou qui est décédé, hein, Joseph Fachan et un quatrième qui était du Prado, mais qui est reparti, est un pied noir, et qui est reparti vers Marseille. Donc, ils sont restés à trois. Les baronnies étaient très divisées, appartenaient aussi à des cantons différents, à des administrations différentes, et le journal qui est né voulait relier ces villages entre eux d'abord, et puis permettre en même temps que se développe aussi, enfin, certaines idées qui pouvaient être développées en accueillant aussi ce que les gens disaient et ce qu'ils vivaient réellement, et puis en le traduisant. Le journal, il est bon, je vais peut-être le faire voir que à Laurent, là, mais le journal, il est l'arc-en-ciel des baronnies, avec, il est créé entièrement par les gens du pays, quoi. Il y a une équipe d'une douzaine à quinzaine de personnes qui se retrouvent pour le réaliser, cinq fois dans l'année, avec toujours, ce sont les paroisses des baronnies, mais en même temps, c'est vrai que, bon, les gens disent, il n'y a pas grand-chose de religieux là-dedans. En fait, pour nous, tout est religieux. C'est-à-dire, la religion, ce n'est pas uniquement une pratique du dimanche, mais c'est une pratique de l'évangile. Et l'évangile, au jour le jour, il est là pour donner du sens à ce que l'on fait, nous, suivant les convictions de chacun, qu'on respecte, et des convictions différentes. Et moi, c'est vrai que j'avoue que, quand je suis arrivé ici aussi, il y a deux phrases, je les redis souvent, deux phrases qui m'ont accroché pour vivre dans ces baronnies. C'est une phrase de Saint Jean, au chapitre 10, verset 10. « Je suis venu, dit Jésus, pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et puis, ça c'est un petit clin d'œil aussi, c'est Saint Luc, après l'annonce à Marie, et l'ange Gabriel, mais j'y suis pour rien là, l'ange Gabriel dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, à la limite, dans les baronnies, c'est l'ouverture à tout le possible. Tout est possible, à la limite. Et tant qu'il y aura des hommes qui vont se battre pour les faire vivre, je crois que tout peut bouger encore dans les baronnies. Beaucoup de choses ont bougé, mais beaucoup de choses encore doivent et peuvent bouger.
Oui, effectivement, on peut dire que justement ici, sur ce territoire où il y a une vraie conversion écologique qui est vécue au quotidien, cette conversion, elle conduit les croyants à développer une certaine créativité. Et on l'a vu effectivement à la Barthe de Nesle, lorsqu'il y a eu la préparation Terre d'Espérance, où vous aviez convoqué un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de témoignages autour de justement cette créativité et cette volonté de faire changer les choses au nom de la maison commune. Et aujourd'hui, ça perdure, puisque encore aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages et d'acteurs qui sont sur ces baronnies et qui continuent à investir sur cette démarche un peu innovante et enthousiaste.
Ce n'est pas toujours très simple parce que là, moi, j'ai quitté les baronnies, j'ai passé les baronnies 28 ans au début, et puis j'ai quitté les baronnies, je suis revenu là, il y a, ça va faire bientôt 4 ans, à la retraite, hein, et, mais toujours actif, et avec Noël Gaille maintenant, et les baronnies ont beaucoup changé. C'est vrai qu'en 20 ans, la moitié de la population a changé. Quand je suis parti en 98, il y avait 2000 habitants dans les baronnies. Aujourd'hui, il y en a encore 2000. Mais Noël me dit, mais j'en ai enterré 1000. Mais il y en a toujours 2000, c'est pas un miracle. Hein. Ça veut dire que 1000 personnes sont venues pratiquement de l'extérieur pour vivre dans ces baronnies. Et pourquoi ? À la recherche peut-être d'une maison, à la recherche d'un cadre de vie, à la recherche aussi d'une possibilité, de possibilités diverses de vivre dans ces baronnies. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple parce que l'arc-en-ciel joue ce rôle-là, important je crois, de permettre que toutes les initiatives de ces gens qui viennent d'arriver, souvent artisans, petits agriculteurs, petits éleveurs, des initiatives très différentes dans le soin, dans la santé, enfin, viennent là et on est à l'affût, bon, Noël surtout est à Noël, il est toujours à l'affût de celui qui vient s'installer là et pour leur donner la parole, pour d'abord les accueillir, et c'est important, les accueillir, savoir qu'ils sont les bienvenus dans ces baronnies et leur donner la parole pour dire, ben voilà, présentez-nous vos initiatives et puis votre initiative et puis on les mettra dans le journal et puis si vous voulez, on fait un peu de pub et là, enfin, quand les gens viennent dans les baronnies, ils disent où est-ce qu'on va trouver un électricien, où est-ce qu'on va trouver un plombier, mais les gens lui disent naturellement, mais vous regardez l'arc-en-ciel, il y a tout dedans. Et c'est vrai qu'il y a, à peu près 60-70 artisans, enfin, agriculteurs qui sont là avec le petit carré, le petit rectangle de pub qui vise ce qu'ils font, quoi. Et ça c'est important de développer créer ce lien entre les anciens, enfin, ou alors les natifs, on va dire comme ça, et puis les nouveaux venus. Et c'est pas simple. Et je crois que je vois par exemple, bon, mais à Bad Serre, ils viennent de faire les trois lundis de Bad Serre. Bad Serre doit être à peu près avec 30-35 habitants résidents. Trois lundis en suivant, il y a 500, 800, 1000 personnes qui viennent dans ce petit pays et pour vivre quelque chose aussi de différent. Voilà. Et c'est des petites réalisations comme ça. Tout le monde des baronnies, des anciens des baronnies, ils ne font pas tous, mais enfin, ils commencent à se créer pas mal de liens aussi entre eux. Mais ça, le rôle aussi de l'Église, le rôle de l'Évangile, c'est bien aussi de créer ce lien et puis de développer les liens entre eux si c'est possible.
Alors, ce qu'on peut dire quelque part, Gaby, c'est que dans les baronnies, on vit l'expérience Laudato si au quotidien.
Je crois que oui. Mais là aussi, bon, mais simplement, je crois, enfin, en développant les possibilités de ce pays, en permettant aussi d'essayer de chercher, de ne pas gaspiller ce que l'on fait, parce qu'ici, ce pays n'a jamais été bio, mais tous les produits, les productions des gens ont été simplement faites parce que les gens disaient, mais nous, on mange ce que l'on produit, donc si on en vend un peu en plus, on va pas faire, mettons, des pommes de terre pour nous et des pommes de terre pour vendre. Non, c'est les mêmes. Donc, on essaie de vivre enfin, une certaine écologie raisonnée aussi, parce que tout n'est pas raisonnable non plus, enfin, quelquefois, mais on va dans ce sens-là. Et si aujourd'hui, enfin, les gens des baronnies viennent, ou d'ailleurs viennent et disent, bon, ces baronnies, elles sont vraiment vertes, et c'est vrai qu'elles sont vertes, bon, il y a eu quand même un peu d'eau, même si les agriculteurs ont eu du mal cette année à faire les foins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon, il y a une forme d'écologie, enfin, et le pape, bon, mais peut-être c'est pas suffisamment su, mais le pape insiste pour que la manière de vivre, la simplicité de vie, l'économie aussi de beaucoup d'énergie, face que ce pays, à sa manière, vive et contribue à la vie. Je voudrais ajouter à peine un petit mot, on dit souvent ici, c'est de l'ordre du petit, mais comme a dit un certain monsieur Rabbi, ben voilà, enfin, chacun essaie de faire sa part, sa petite part.
Alors, pour terminer avec cet entretien, Gaby, je sais que tu prépares avec un certain nombre de prêtres et de laïcs une grande manifestation le 7 octobre à la Cité Saint-Pierre, Semeur du Changement. Bon, Semeur du Changement, c'est un petit peu la prolongation de Terre d'Espérance.
Oui, je crois. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est important, je pense, à dire. C'est dans notre insertion de prêtres dans ces pays-là. Je crois qu'on n'est pas là uniquement pour le dimanche. C'est-à-dire, ce que vivent les gens, on essaie de vivre avec eux. Participer avec eux, des fois participer au chant, participer quelquefois aussi les associations d'agriculteurs, d'artisans, enfin tout ce qui peut se faire, tout ce qui donne un peu de vie, on y est proche et des fois bien engagé. Ce soit aussi l'aide à domicile, c'est important aussi. Et on a réalisé en 2021 une belle journée à la Barthe de Nest avec une quarantaine d'initiatives porteuses d'espérance, on disait. On va renouveler cette rencontre là, le 2 septembre à la Nemezan pour voir qu'est-ce sont devenues ces initiatives qui ont été montrées là, il y a 2 ans. Et puis, plusieurs parmi nous ont participé aussi à Terre d'Espérance à Châteauneuf-de-Galore, là, dans la Drôme, avec plus de 400 expériences, 400 initiatives. Je pense que ça, c'est important. Et donc, si le 7 octobre à Lourdes, et c'est déjà un appel que l'on peut faire, mais il sera redonné par d'autres. On a fait passer aussi quelques tracts déjà depuis quelques jours. Si le 7 octobre peut être aussi une rencontre forte pour le diocèse, la dimension diocésaine est là, je crois que c'est important. Parce qu'il faut aussi des moments forts pour pouvoir s'appuyer dessus et pouvoir repartir avec un nouvel élan. Et je pense que les orientations que nous donnerons aussi notre évêque et le conseil épiscopal, je pense qu'ils iront aussi dans ce sens-là d'une forme d'engagement au niveau du rural, mais aussi de tous les espaces ruraux.
Merci Gabi. Nous sommes à la fin de ce temps partagé. Alors, pour les auditeurs, nous sommes au milieu d'un jardin merveilleux, le jardin qui est aussi la passion de Gabi, il a la main verte Gabi. Et donc, on vous donne rendez-vous si vous voulez prolonger cette rencontre avec Gabi, le 7 octobre, puisque bien sûr il sera présent à la Cité Saint-Pierre pour cette manifestation qui s'appellera Semeur de Changement. À bientôt Gabi.
Merci, au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Et comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit d'une rediffusion en ce temps de vacances et d'été. Profitez-en bien, le soleil est présent. D'ailleurs, il fera grimper les températures tout au long de ce week-end qui, dimanche prochain, atteindront les 35 degrés. Restez au frais, on continue en musique, on est bien avec Radio Présence. Voici Michel Jonas, joueur de blues.
Dans la ville, un walkman collé sur mon bril. Enfant noir, femme de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born Toulouse. Joueur de blues, on est le joueur de blues. Joueur de blues, on est le joueur de blues.
Maîtrise, maîtrise d'un baron. Mille et mille et mille.
Le joueur de blues, Michel Jonas sur Présence.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Nicolas Dargegen nous propose son coup de cœur en librairie aujourd'hui, un ouvrage de Christine Boutin.
Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre passionnant pour qui aime la France. Il s'agit de « Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français » de Christine Boutin, paru chez Teki en 2024. Ce livre est une longue interview où l'auteur répond aux questions de la journaliste Marie-Joëlle Guillaume. En préparant cette chronique, je m'étais dit « il est inutile de présenter Christine Boutin, tout le monde la connaît ». Et en même temps, je pense qu'il faut tout de même présenter son parcours politique. Maire de la commune d'Auffargis dans les Yvelines pendant près de 3 ans, conseillère départementale des Yvelines pendant 35 ans, députée pendant 19 ans, première vice-présidente du Conseil général des Yvelines pendant 15 ans et ministre du Logement pendant 2 ans. C'est dire à quel point elle a été impliquée dans la vie politique française et à quel point elle aime notre pays et a eu à cœur de le servir. Et à quel point, surtout, elle est légitime pour nous parler d'engagement politique. Et dans tous ses engagements politiques, Christine Boutin n'a jamais caché sa foi. Elle s'est toujours appuyée sur la doctrine de l'Église pour prendre ses décisions. Pour reconstruire notre pays, Christine Boutin présente 8 chantiers dans lesquels les chrétiens doivent s'investir. Mais ce n'est pas cela que je voudrais mettre en avant aujourd'hui. Cela, chacun pourra le lire dans le livre. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est le message de Christine Boutin, l'importance que les chrétiens et les catholiques soient présents et investis en politique. C'est cela le message qu'elle veut nous transmettre. Il ne faut pas avoir peur de s'engager en politique. Elle nous livre ici, à travers son témoignage, un manuel étonnant dont le but est de susciter des vocations au service du bien commun de notre pays et de notre République. Il ne s'agit pas de créer une théocratie, mais d'être présent au service de la République. La République possède des vertus au service du bien commun. Ces vertus, ce sont les 4 vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. Cela paraît logique que ces 4 vertus soient présentes dans la vie politique. Comme l'écrit Christine Boutin, les vertus cardinales ont fait leur preuve dans l'histoire au service du bien commun parce qu'elles appellent au dépassement de soi et n'éliminent personne. Mais à ces vertus-là, nécessaires pour une vie politique, les catholiques apportent quelque chose de plus lorsqu'ils s'engagent en politique. Car les catholiques doivent être présents dans le monde politique et ne pas se cacher derrière une idée de laïcité galvaudée. La laïcité, comme le rappelle Christine Boutin, c'est la possibilité d'exprimer toutes les croyances, de les respecter toutes. Et un chrétien a donc le devoir et le droit d'exprimer sa croyance et ses convictions, et ce même dans la sphère politique. Il doit pour cela être guidé par les vertus théologales, ces vertus qui nous sont données par Dieu et qui sont indispensables dans l'engagement. Elle nous donne en exemple des saints qui ont œuvré dans la politique. Sainte Geneviève, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Thomas More ou le bienheureux Vladimir Jika. Comme l'écrit Christine Boutin, ils ont joint les effets de la grâce divine parce qu'ils pratiquaient avec intensité les vertus de foi, d'espérance et de charité et que leur intimité d'amour avec Dieu a rejailli par leur action sur la vie de leurs compatriotes. C'est un beau modèle. Il ne s'agit pas pour eux de construire la Jérusalem céleste. Elle n'est pas de ce monde. Ils le savaient, ils respectaient l'autonomie du temporel. Mais il y a une continuité entre la pratique des vertus morales acquises par l'expérience, l'exemple, l'exercice, et les vertus théologales infuses que sont la foi, l'espérance et la charité. Et donc, compte tenu de l'énorme défi métaphysique auquel la France et tout notre monde moderne sont confrontés, je crois qu'on a vraiment besoin de monter jusqu'à elle. Et Christine Boutin met en avant un élément primordial que possèdent les catholiques et qui est nécessaire dans l'engagement politique, comme dans tout engagement, c'est le rôle de l'hostie consacrée. Comme elle l'écrit, étant le sacrement de la paix de Dieu, l'Eucharistie a un rôle éminemment social et politique. Notre laïcité étroite et orgueilleuse empêche de le voir, mais cela ne doit pas empêcher les chrétiens d'en être les témoins. À notre société qui ne respecte pas le corps, les catholiques doivent témoigner de la beauté de l'Eucharistie. Alors que nous sommes au plus profond du mystère du mal, nous devons témoigner de l'espérance de l'Eucharistie. Comme l'écrit Christine Boutin, aujourd'hui les puissants s'acharnent contre le corps. L'homme en péril de mort, c'est l'homme dont le corps est vendu comme une marchandise, transformé en objet d'expérience, nié dans sa différence sexuelle, violemment séparé de son âme par des lavages de cerveau des propagandes matérialistes. Mais en face, l'Église offre avec l'Eucharistie le message de l'incomparable dignité de notre corps, même au sein de la torture la plus abjecte à cause de notre Seigneur. Il me semble que si les chrétiens parvenaient à témoigner sans filtre de cette incarnation à la sortie des assemblées de l'Eucharistie, les situations politiques changeraient. Et c'est justement en se tournant vers l'Eucharistie que le catholique qui veut s'engager en politique va trouver la force pour s'affirmer. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort », disait saint Paul. C'est en s'abaissant humblement devant Jésus Eucharistie que l'on trouve la force pour s'affirmer, comme nous le dit le Christ lui-même, « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse ». C'est donc auprès du corps du Christ que le chrétien qui veut s'engager trouvera la force pour le combat. Christine Boutin en témoigne elle-même, « Dans les périodes de grande bourrasque de ma vie politique, quand les attaques se multiplient, je ne me sentais pas forte du tout. J'avais conscience au contraire de pouvoir être emportée comme un feu de paille. » Jamais je n'aurais tenu bon dans cette certitude, à la suite de saint Paul, que Dieu était présent dans ma faiblesse. Jamais je n'aurais tenu le bon sans un abandon confiant à la grâce. Et c'est plein d'espérance qu'elle nous encourage à nous engager en politique, car rien n'est fichu. La mission est belle, comme elle l'écrit dans sa conclusion. Pour vous aider dans cette mission, que vous soyez croyant ou non, appuyez-vous sur la beauté de notre histoire, de nos symboles. La France est belle. Quand nous avons vu brûler dans le ciel de Paris la flèche de Notre-Dame, nous avons tous éprouvé une atteinte au cœur qui aurait pu être mortelle. La Renaissance en cours de notre cathédrale est comme une étoile pour l'action des chevaliers, des héros modernes. Tout renouveau a une vocation à vivifier la beauté française dans un prodigieux potentiel d'inspiration humaine et politique. Jean-Paul II encourageait la France, fille aînée de l'Église, à renouer avec sa mission d'éducatrice des peuples, et cela ne pourra se faire qu'avec la présence des catholiques. Le pape Pie XI disait « La politique est la forme la plus haute de la charité. Les catholiques ont donc le droit et sans doute le devoir de s'engager en politique. Il faut que nous puissions témoigner de notre foi dans la vie de notre cité. » Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français de Christine Boutin est parue chez Teki et se trouve à la librairie de la Grotte et dans toutes les librairies.
Chronique qui nous était proposée par Nicolas Dargegen. Dans quelques instants, eh bien, nous retrouverons les informations régionales juste après les frangines.
Monsieur, on ne chante pas les mêmes refrains. On a chacun son quotidien. On n'a pas grandi côte à côte. On n'a pas tous la même cote. On connaît pas tous la même chance quand on y pense. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas. Mais au fond que vaut la richesse sans la tendresse. On n'a pas la même opinion, pas toujours la même direction. Mais qu'on soit pauvre ou qu'on soit roi, on finira au même endroit. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe. Être les mêmes pour s'aimer. Ah, ce serait tellement dommage d'effacer qui l'on est pour se donner. On n'a pas besoin d'être les mêmes pour s'aimer. Ah, ce serait tellement dommage d'effacer qui l'on est pour se donner. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Et c'est pas parce qu'on se ressemble pas, non c'est pas ça qui nous éloignera. Aïe aïe.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, un militaire de 23 ans du 1er régiment de hussards parachutiste de Tarbes est décédé lors d'un exercice d'entraînement. Le jeune soldat venait tout juste de s'engager. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès. À Toulouse, les investigations se poursuivent après l'agression de l'ancien président des Indians Tolosa, le principal club de supporters du TFC. Selon les enquêteurs, cette attaque pourrait être liée à un précédent passage à tabac survenu quelques semaines auparavant. Plusieurs personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Dans le Tarn-et-Garonne, l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection estime que le niveau de sûreté de la centrale de Golfech reste satisfaisant. L'organisme souligne toutefois plusieurs points de vigilance et demande des progrès, notamment en matière de maintenance des installations et d'organisation des équipes. Dans le reste de l'actualité, l'entreprise toulousaine Delair, spécialisée dans les drones, poursuit son développement. Elle s'associe à l'équipementier allemand Schaeffler afin d'augmenter sa capacité de production, une montée en puissance destinée à répondre à une demande croissante, notamment pour les drones utilisés en Ukraine. En Ariège, la justice maintient des tirs d'effarouchement des ours sur une estive. Ces tirs, qui ne visent pas à blesser les animaux mais à les éloigner des troupeaux, sont contestés par l'association One Voice. Les éleveurs, eux, estiment que cette mesure est indispensable pour protéger leur activité. Enfin, en sport, Djibril Sidibé quitte le Toulouse Football Club. Après deux saisons sous le maillot des Violets, le champion du monde de 2018 ne prolongera pas son contrat avec le club toulousain. Son avenir n'est pas encore connu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Des informations qui nous étaient présentées aujourd'hui par Clémence Roux. On retrouve la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, elle nous propose de découvrir ou redécouvrir le tiers-lieu à Massate.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. L'invité, ou plutôt les invités de notre jour pour Solidairement Vôtre, cette semaine, ce sont des personnes très investies dans la vie sociale et solidaire. Il s'agit de Camille Fourtine. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice d'une association qu'on va présenter en long et en large, la Massa à Lourdes et plus largement. Et puis vous êtes accompagnée d'un de vos fidèles bénévoles qui est Michel Gazot. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, je disais, certains de nos auditeurs doivent déjà connaître la Massa, parce qu'on a des auditeurs de Lourdes qui fréquentent peut-être ce lieu, mais beaucoup ne connaissent pas encore ce que c'est que la Massa. Déjà, vous m'avez dit quelque chose de magnifique en préparant, c'est que à Massa, en occitan, c'est « ensemble ». Donc, ensemble, on va découvrir votre association, on va découvrir ce qui vous tient vraiment à cœur et qu'est-ce que c'est pour vous la vie solidaire, quoi. Alors, Camille, quelques mots pour nous présenter la Massa ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est le tiers-lieu à Massa. À Masse veut donc dire ensemble en occitan. C'est un lieu créateur de liens. C'est situé en dessous de la poste. Donc, c'est sur le boulevard Général Baron Marensin, au numéro 19, à Lourdes. Et c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui entrent dans le lieu, qui disent « mais c'est incroyable, on ne connaissait pas Massa et il s'y passe beaucoup de choses ».
Pour situer vraiment, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le centre-ville de Lourdes, c'est donc entre, on va dire, la poste et l'hôpital, dans ce secteur-là.
Hein, tout à fait.
Pas si loin que l'hôpital, mais enfin…
Proche de la poste,
voilà,
collé à la poste. En fait, c'est dans l'ancien centre de tri de la poste. Donc, c'est le même bâtiment magnifique, rouge, un peu surélevé, qui a été rénové. Qui c'est un grand bâtiment et c'est le même bâtiment que celui dans lequel il y a la poste. Donc il faut descendre un petit peu et puis l'entrée est là.
On va venir vous visiter, mais avant on va bien connaître. Alors comment est né ce tiers-lieu, comme on dit ? Vous allez nous expliquer. On parle de tiers-lieu, hein, d'accueil, de propositions diverses, de location de salles, d'ateliers, etc. Expliquez-moi le lien à Massa tiers-lieu, déjà, pour qu'on comprenne bien comment est née cette initiative.
Donc cette initiative est née avec l'association Le Club des Six, qui fait des habitats pour porteurs de handicap.
Donc Le Club des Six, c'est une structure nationale ?
Tout à fait. Et donc le tiers-lieu à Massa est rattaché au Club des Six. Et c'est donc dans le même bâtiment que la colocation de porteurs de handicap ouverte par le Club des Six. Et on a aussi au dernier étage une colocation de personnes âgées, Cosima Dignita. Donc ces personnes bénéficient aussi des activités du tiers-lieu. Moi, aux soirées, je vais les chercher et je les ramène. Et donc l'initiative est aussi à l'époque venue de la ville de Lourdes qui avait envie d'un lieu créateur de liens et dynamisante pour le territoire. Donc vous verrez, on en parlera un peu plus loin, mais c'est un lieu dans lequel on peut se former, dans lequel on peut devenir bénévole, dans lequel on peut rencontrer des gens, dans lequel on peut louer des espaces, travailler. Mais c'est vaste. Le tiers-lieu, en fait, est un lieu dans lequel on peut faire des choses très différentes. Le nôtre a pris un axe inclusion sociale et projet écologique plus fort que d'autres tiers-lieux.
Alors justement, parlons-en quand même un peu plus dès maintenant. Quel est le rôle que vous jouez justement dans la vie de la ville de Lourdes, d'un point de vue social, solidaire? Comment vous venez en complémentarité de propositions qui sont peut-être faites au niveau municipal?
Alors, on a régulièrement des rendez-vous avec le centre social. On fait des activités en complémentarité. On va animer parfois aussi des activités à l'OFIT pour accompagner les habitants à avoir des nouveaux repères dans la ville. On se donne souvent des informations sur là où on en est, ce qui est fait, ce qui a besoin d'être fait. Et donc nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un endroit qui accueille des migrants qui sont, donc si vous venez au tiers-lieu à Massa, vous allez être accueillis au café associatif, souvent par une personne migrante qui est là pour apprendre un métier sous tension, qui est le métier du service, qui est là pour prendre des repères culturels aussi au sein de notre lieu, qui est là pour rencontrer du monde, qui est là pour travailler son intégration, qui est là pour nous apporter aussi sa culture. Vous allez rencontrer aussi des porteurs de handicap, puisqu'on a des cercles de parole handicap visible et invisible. Enfin, je vous parlerai tout à l'heure des ateliers. Vous allez rencontrer des gens qui viennent travailler, qui sont en coworking. Donc, on a une mixité sociale forte. Et donc, ce que ça apporte, ben, c'est que toutes ces personnes vont s'apporter les unes les autres. Elles viennent de milieux différents, mais en fait, on prend beaucoup de plaisir à manger ensemble le midi, à se rencontrer, à porter des projets ensemble qui nous semblent importants pour la ville. Les tiers-lieux sont aussi souvent des endroits où des personnes, comme Michel, qui va nous présenter tout à l'heure son atelier, viennent et ont des idées, répondent à des besoins locaux et ont besoin d'un endroit pour le faire. Et donc le groupe associatif, les bénévoles, la salariée vont penser le projet, vont mettre en œuvre ou vont donner en tout cas un lieu pour que ça puisse avoir lieu.
Alors depuis quand existe ce tiers-lieu?
Ça a ouvert fin 2021.
D'accord. Alors, si j'ai bien compris, c'est aussi un lieu reconnu pour la formation, parce que vous nous avez parlé d'une personne migrante qui vient aussi là pour se former. Alors, au café collaboratif, donc comment vous avez
associatif.
Dit le café associatif, qui donc est un lieu reconnu pour une formation professionnelle?
Alors, c'est de l'accompagnement socio-professionnel. On n'est pas organisme de formation. Eux, ils viennent comme bénévoles et ils rentrent dans un parcours de bénévolat dans lequel on va leur apprendre à utiliser la caisse, à rendre la monnaie. On va parfois leur apprendre à compter. Parfois, il faut repartir de là. Ils vont apprendre à faire un café. Ils vont apprendre les différents types de café. Ils vont apprendre à accueillir. Parce que on n'accueille pas pareil en Afrique comme on accueille en France. Le bonjour n'est pas le même. Le bonjour n'est pas dit au même moment. Donc, il y a beaucoup de codes à intégrer. Et puis, on leur donne aussi des cours d'informatique et des cours de français. Nous, notre objectif, c'est d'accélérer l'inclusion. Et on fait ça depuis maintenant 2 ans et on a des superbes résultats. On accueille environ 12 à 14 personnes migrantes par an. Et c'est une aventure merveilleuse pour eux et pour nous.
Alors, je me tourne vers vous, Michel. Vous êtes donc bénévole dans cette association. Hein. Quelles sont vraiment vos missions?
Le projet au départ, quand j'ai rencontré Camille, c'est de permettre à des gens de réparer eux-mêmes des objets qu'ils auraient destinés à être jetés parce que ils ne savent pas le réparer ou ils ne savent pas si c'est réparable.
Alors ça peut être de l'électroménager.
C'est tous les objets domestiques qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie courante, quoi.
D'accord.
Évidemment, on ne va pas venir avec une machine à laver, mais il y a beaucoup d'objets qu'on peut apporter à l'atelier de réparation, quoi. Enfin, on l'appelle le répare café parce que c'est autour d'un café, c'est un lieu convivial.
D'accord.
Et c'est d'abord la rencontre avec des gens qui viennent avec un objet, mais qui partagent un certain nombre de valeurs. Je crois que la première, c'est d'éviter de jeter des choses qui pourraient être encore utilisables, quoi.
C'est bien qu'il vous faut quand même, dans l'association, des gens qui ont des compétences pour pouvoir justement montrer, pour réparer ces objets.
Ben, disons que moi j'ai ces compétences justement, et dans ma démarche de transmission intergénérationnelle, c'était mon souci à la retraite de dire comment je peux transmettre ce que je sais, qui peut être intéressant pour d'autres. Donc là, je n'ai pas trouvé de lieu. C'est vraiment avec mon épouse en septembre, le jour de la journée des associations, que
vous avez découvert.
Ça a fait tilt en passant devant le stand d'Amassa pour dire bah tiens, pourquoi mon épouse, mais pourquoi tu proposerais pas un atelier de réparation? C'est comme ça que c'est lancé, mais c'était pas un projet construit, c'est juste la rencontre d'un désir qu'on portait avec mon épouse, et aussi d'un potentiel que représente Amassa. C'est une forme d'agora, une forme de lieu social qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter nous-mêmes.
Est-ce que c'est aussi un lieu où on peut déposer du coup des objets qu'on n'en a plus l'utilisation, donc des objets qui pourraient être de deuxième main, et que des bénéficiaires d'Amassa viennent pour récupérer, acheter ou recevoir des objets dont ils ont besoin?
Tout est ouvert, mais comme faut que d'abord préciser qu'on n'a eu qu'une première rencontre. On commence déjà,
c'est
vraiment expérimental. Moi, j'ai 2 heures d'expérience pour vous parler du sujet. Donc, par contre, c'est vrai que c'est une question qui a été posée. La personne est venue avec un objet, elle dit « je le répare, mais moi, j'ai plus envie de le garder ». Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a dit « mais à Pierrefitte, il y a une boutique où on peut déposer les objets, puis il y a des gens qui vont venir les ramasser, voir si ça les intéresse ». Donc on est Amassa pas forcément de venir faire quelque chose qui existe déjà. Contre, c'est vrai qu'elle n'existe pas sur Lourdes, apparemment.
Voilà. Et on entend bien qu'Amassa est aussi un lieu qui peut renvoyer vers d'autres partenaires, vers d'autres lieux. Enfin, on n'est pas obligé de tout gérer sur place, quoi, bien sûr.
Ah non, si c'est des choses qui sont bien ailleurs, pourquoi?
Et vous pourriez, Michel, nous parler d'autres ateliers proposés par Amassa sur Lourdes, là dans le cadre? Est-ce que j'ai entendu parler aussi qu'il y avait un cercle de parole? Est-ce que c'est vous, Michel, ou vous plutôt Camille, qui pouvez nous en parler?
Moi, je veux bien répondre, parce que Michel est spécialiste du répar café.
Voilà, c'est mon domaine unique.
Après, on peut en parler pendant des heures.
Parce que mais pour le reste, non.
On partage des valeurs communes et c'est un régal. Mais en effet, donc, dans les ateliers que nous avons tous les mercredis après-midi les ateliers jeux de société. Nous avons aussi des cours de couture 2 fois par mois. Donc les cours de couture sont sur participation libre à partir de 3 euros. Des ateliers créatifs, que ce soit de la peinture, la création de bijoux, qui sont aussi sur participation libre. Il y a souvent une base qui est celle de l'achat du matériel par les bénévoles.
Les fournisseurs qu'il nous faut.
Voilà, donc des fois c'est à partir de 3 euros, des fois c'est à partir de 5 euros. On a aussi des soirées culturelles, donc on a des soirées, ce qu'on appelle des jam sessions, donc c'est des buffs musicaux, les artistes se retrouvent, jouent ensemble, et c'est des moments extraordinaires où on vit des moments de grâce où des gens qui n'ont jamais joué ensemble jouent et se rencontrent. C'est toujours, je ne sais pas si vous voyez, un fil conducteur dans toutes ces choses, c'est de faire ensemble, c'est d'apprendre ensemble, c'est le lien. Et on a aussi des soirées humoristiques, donc ça s'appelle des soirées stand-up. Donc ce sont des humoristes qui pendant un quart d'heure vont faire un sketch. Alors, et ils viennent parfois partout de la France.
J'allais dire humoristes en herbe, dans le sens où ils connaissent ce lieu, ils ont une histoire à raconter, et puis ils viennent la partager, ou c'est vraiment des humoristes qui sont habitués à faire de la scène?
Certains sont habitués, certains pas du tout. C'est comme les musiciens des jam sessions, c'est qu'on a des novices avec des gens qui sont professionnels et en fait on fait tous ensemble.
Vous vouliez me parler donc aussi là, donc, des cercles de parole. Ça m'intéresse beaucoup.
Oui.
Parce qu'on se rend compte, et sur des secteurs comme celui de Lourdes, il y a beaucoup de gens qui se sentent des fois seuls, pas bien dans leur peau, et qui ne trouvent pas forcément avec qui parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle de parole?
Alors, justement, on a monté ça parce que, 80% des handicaps sont invisibles. On ne se rend pas compte que beaucoup de gens en portent. Ça crée beaucoup d'isolement social. Ce sont des thématiques spécifiques et des vécus qui ne sont pas toujours faciles à partager avec sa famille ou ses amis. Et donc, fort de cette expérience, fort de ce constat, on a monté des cercles de parole avec Virginie. On a démarré ça il y a 2 ans, ça marche très bien, c'est une expérience magnifique. Et donc l'idée, c'est de venir déposer des réalités au centre du cercle, de ce que l'on sent, de ce que l'on vit en toute liberté, parce qu'on sait que les cercles de parole permettent énormément de choses, que ce soit la résilience, que ce soit le simple fait de se sentir moins seul, d'avoir un endroit où le faire, alors que voilà, des fois dans le cercle familial, ça fait mal aux autres aussi d'entendre ce qu'on vit, hein, c'est pas évident. Et donc le cercle de parole fonctionne maintenant très bien, c'est un rendez-vous par mois, c'est un mardi par mois, et chaque fin de cercle, le groupe décide de la thématique suivante, et donc ça permet pendant un mois, ça peut être par exemple la thématique féminité et masculinité, pour des porteurs de handicap, ben, quels enjeux, comment je le vis, qu'est-ce que j'ai traversé, quelles ont été mes ressources, qu'est-ce qui est encore compliqué pour moi. Et donc, la puissance aussi du cercle de parole, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que quelqu'un va verbaliser des choses que je vis, mais que je n'arrivais pas à poser ou à verbaliser.
Merci Camille, merci Michel. Je pense qu'on va se donner très tôt un deuxième rendez-vous pour aller plus précisément, plus dans le détail, donc des ateliers pour bien vraiment comprendre comment aussi nos éditeurs peuvent s'intéresser, mais aussi s'investir à vos côtés. Merci.
Et à la semaine prochaine, puisque vendredi prochain, nous aurons la seconde partie de cette émission. Juste après Sting, en duo avec Mélodie Gardot, nous allons retrouver Catherine Albrecht pour Les Auteurs sur nos belles Pyrénées.
I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping this focus.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as da-di-da-di-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. The melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my life for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. We could keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something.
We could be a little something.
We could be a little something. We could be a little something.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. Keep it simple as. Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
Présence à Argelès-Gazost 91.9.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les sites pyrénéens fameux. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Guy de Maupassant. Arrivé à Paris de sa Normandie natale à 19 ans, Guy de Maupassant débute sa carrière d'écrivain dans les années 1870, cornaqué par Gustave Flaubert, ami de sa mère. Après le succès de sa nouvelle Boule de Suif, il publie 6 romans, plus de 300 nouvelles et quelques récits de voyage qui lui assurent de confortables revenus. Mais malheureusement, la maladie est en embuscade. Il souffre de névralgie sous l'effet de surmenage intellectuel, des excès physiques et des paradis artificiels auxquels il s'adonne sans retenue. Il court alors les villégiatures, Plombières-les-Bains, Aix-les-Bains, Gérardmer, Divonne. Le voyage à Luchon s'inscrit dans cette tournée des stations thermales, comme autant de stations d'un chemin de croix qui va aboutir au martyr final. Atteint de graves troubles neurologiques, de cécité partielle, de perte de mémoire et de paralysie, il sombre dans la folie à partir de 1891 et décède 2 ans plus tard. Maupassant était arrivé à Luchon début juillet 1891 et les quelques informations que nous avons sur ce séjour proviennent de son valet de chambre. Pendant 3 jours, nous faisons des excursions, nous visitons les cascades de Jusé, de Montauban, puis la vallée du Lys et la cascade du Cœur. La 4e journée, mon maître, d'accord avec son médecin, décide de ne pas continuer la cure. Les odeurs de soufre de l'établissement lui portent sur le système nerveux. S'il s'obstinait à continuer, cela pourrait lui faire le plus grand mal, lui dit ce brave docteur espagnol. Puis Luchon est si monotone. C'est un entonnoir où l'on ne respire pas et où l'on ne voit le soleil apparaître au faîte des montagnes qu'à 10 heures. La lettre que Maupassant envoie au docteur Granchet le 15 janvier 1891 révèle toute sa détresse. Je quitte Luchon parce que c'est le plus horrible endroit, le plus froid et le plus humide que j'ai jamais vu. J'y perds les yeux. J'y suis perclus de névralgie. Maintenant, j'arrive à une autre question. Me voici à mon 10e jour d'insomnie et cela vient uniquement de mes abominables douleurs maxillaires et des écoulements de mes fosses nasales. C'est la vieille dent pourrie qu'on n'a pas voulu m'arracher qui communique avec le sinus. Elle me fait un mal horrible et détruit l'œil au-dessus d'elle. On ne peut pas souffrir d'une dent plus que je ne souffre de celle-là. Je vais être obligée d'aller voir quelques praticiens de Genève. Quant à l'humidité de Luchon, elle est telle que nos vêtements semblent toujours trempés d'eau, ainsi que nos lits irréchauffables. J'ai cru à Saint-Raphaël mes yeux guéris. Le soleil et la chaleur avaient diminué la pupille gauche. Voici que la pupille gauche tient tout l'œil et la droite est devenue presque imperceptible. Mais je crois que cette humidité rendant intolérable la douleur de ma dent agit sur mon œil. Et mes crises de mâchoire répétées chaque nuit reparaissent même aussi dans le jour, car cette dent me torture. Je vous écris, mais il m'est impossible d'écrire tant cela me fait enfler le ventre instantanément et le rend douloureux. Quel mystère que ce rapport de la pensée et de l'intestin. Enfin, depuis Luchon, je suis plus malade que je ne l'ai été jusqu'ici. Des hallucinations toute la nuit, parfaitement éveillée, assis dans mon lit. C'est par l'humidité que Plombières m'a fait tant de mal, et par la chaleur et la douche que Tunis, il y a 3 ans, m'avait rendu les yeux. J'y fais en 3 mois mon roman Fort comme la mort, après 6 mois d'impuissance, amené par Étretat, Aix-les-Bains et Gérardmer. J'ai de nouveau des craquements insupportables dans la nuque et dans la tête depuis mon séjour ici. C'est une débâcle en ce moment. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Guy de Maupassant. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Eh bien, merci Catherine Albrecht. Nous la retrouverons dès la semaine prochaine avec Otto von Bismarck, qui est venu dans nos belles Pyrénées. Nous en découvrirons une partie de son œuvre littéraire. Je vous laisse en compagnie de Gilles Gilberto en vous souhaitant une très très belle journée ensoleillée et à très bientôt sur notre antenne.
Água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Tem batunda, bate lá da badava. Tem batunda, bate lá da badava. Tem batunda.
Présence sur le Causse 106.5.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Présent après son prédécesseur, le pape Léon XIV se rendra demain à Lampedusa. Il réagit.